Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois à nouveau un grand professeur de médecine qui a été directeur du département de médecine à Genève, qui a été vice-président du Conseil suisse de la science et de la technologie, président des écoles polytechniques fédérales et cofondateur du World Knowledge Dialogue. J'ai cité le grand professeur Francis Walvogel. Bonjour mon cher Francis.
Bonjour Viviane, plaisir d'être ici.
Je suis très heureuse de te recevoir à nouveau. Tu viens d'écrire un dernier livre qui est publié par Odile Jacob, une édition qui n'est pas des moindres, et qui s'appelle « Nature, tu peux encore nous sauver » avec une préface du professeur Patrick Ebischer qui a dirigé le PFL, si je me souviens bien. Mon cher Francis, j'ai été passionnée par ce livre et j'aimerais aujourd'hui que nous en refassions une lecture avec nos auditeurs. Tu as commencé par nous parler de la ligne droite. La ligne droite qui, au fond, est une insulte à la nature. Tu peux nous raconter ça ?
La ligne droite, c'est une invention humaine. La nature, elle est faite de cycles, d'ondulations, de cercles, de répétitions harmonieuses. Et la ligne droite, qu'on voit en architecture, est au fond une invention qu'on doit un petit peu à un grand géomètre trois siècles avant Jésus-Christ, qui est Euclide. Et depuis là, on a pris la ligne droite un petit peu comme un élément fondamental de notre pensée, de notre logique, de notre parole, de notre production et de notre économie. Et donc cette ligne droite, j'insiste, c'est un phénomène essentiellement humain qui est un petit peu en contradictoire à la nature qui est faite de cercles.
Alors tu dis aussi dans ton livre que par moment l'homme a su s'adapter. La coque du bateau est arrondie, l'outil oui. se forge pour être utilisé par la main.
C'est des bons exemples pour montrer que l'idée est juste, que l'homme a inventé le linéaire, parce que quand il a dû s'adapter à la nature, il a su mettre les rondeurs nécessaires. C'est parfaitement vrai qu'une aile d'avion, une carrosserie de voiture, etc., répond est ondulée. Elle doit répondre à ceci parce qu'elle doit répondre aux lois de la nature. S'il ne devait pas répondre aux lois de la nature comme la construction d'une maison ou bien d'un immeuble, pour un gratte-ciel, là on est rectiligne. Mais quand on est en contact avec la nature et qu'il faut être partenaire de la nature pour qu'un avion vole et qu'un bateau circule agréablement dans l'eau, il faut s'adapter aux lois de la nature. Et à ce moment-là, on y met des deux rondeurs et sinon on ne les met pas.
Alors tu racontes un souvenir, tu nous dis que tu étais, je crois, au Vietnam, c'est ça ?
Laos.
Au Laos, pardon, et tu voyais un paysage absolument ravissant, fait de rondeurs, fait de plaines et de rivières, c'était proche du Mékong. Et puis un beau jour, tu reviens, et là, catastrophe.
Absolument, c'est un souvenir très, très cuisant. C'était en effet au nord Laos, dans des paysages absolument admirables, c'est des paysages karstiens avec des rochers et puis des rizières. Et puis tout est en douceur et calme avec des flaques d'eau à gauche et à droite, etc. Et c'est un paysage qui est très connu des backpackers qui aiment beaucoup cette région. Et ces derniers temps, il y a un nouveau projet asiatique qui est le Pan-Asian Railway Project qui coupe cette nature avec un tracé absolument rectiligne de ponts et de tunnels et de rails de 300 mètres ou 400 mètres de large pour transporter d'ici quelques temps 1 million à 2 millions de passagers. Et c'est comme un coup de glaive à l'intérieur d'un paysage. On a l'impression d'avoir une large plaie qui a été créée par les hommes pour juste satisfaire leur désir de transporter des hommes et de la marchandise.
Alors Francis, tu nous dis que ça a des conséquences, tout ça. Parce que ça n'a pas seulement des conséquences pour la nature, ça a des conséquences aussi pour les hommes que nous sommes, en ce sens que ça peut déclencher des pandémies à cause de ce brassage. Autrement dit, il y avait autrefois des systèmes qui coexistaient, qui cohabitaient tranquillement et qui ne s'entrechoquaient pas. Et puis aujourd'hui, ce brassage de population, ces grands mouvements de foule, le fait qu'on ait bétonné des rivières, le fait qu'on ait fait une agriculture intensive, ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur des pandémies sur les animaux, des pandémies sur les hommes. Parle-nous de ça, s'il te plaît.
Je vais essayer de le faire simplement. Il y a un immense monde qu'on connaît très mal parce qu'il est microscopique, le monde microbiologique. Le monde des microbes est absolument immense. Il y en a beaucoup, beaucoup plus d'êtres que d'êtres humains. Et la biomasse totale, c'est-à-dire le poids total du monde microbien, est largement supérieur au poids total de tous les êtres humains. Il y en a partout, il y en a dans les sols, il y en a dans les arbres, il y en a dans les...
On en a sur nous.
Et on en a sur... Non seulement on en a sur nous, on a plus de microbes dans nous que ce qu'on a de cellules de nous. Donc c'est un monde, en quelque sorte, pour les microbes, ils ont l'impression qu'on est simplement des véhicules dans lesquels ils voyagent, parce qu'ils sont plus nombreux que nous. Donc c'est très très nombreux, et ils créent une sorte de communauté entre eux, qui les fait travailler et vivre de façon harmonieuse, qui est cette communauté s'aide mutuellement, donc il y a du mutualisme à tous les différents étages au niveau de cette nature. Dans le langage moderne, on parle d'écosystème. On parle d'écosystème, c'est un énorme groupe de microbes de différentes espèces vivent ensemble et s'aident mutuellement pour vivre et de survivre. Ces écosystèmes microbiens existent partout. Il y en a des milliers dans nous, il y en a des milliers autour de nous, il y en a des milliers au-dessus de nous. Ils sont séparés les uns des autres. C'est comme des grandes familles, si vous voulez. Et dans la vie de tous ces derniers siècles, de ces millénaires, ils ont vécu séparément les uns des autres, mais en harmonie, chacun pour lui. Nous, avec l'être humain, il a faussé tout ceci à la longue, ce qui était normal. On ne peut pas critiquer ceci. La première agriculture, il y a 3000 ans, il y a 7000 ans, a commencé à faire des ruptures dans ces schémas, et ce qui était tout à fait normal, mais c'est la quantité qui est un problème. Les premières épidémies, les grandes épidémies, la peste, le choléra, qu'on connaît il y a de nombreux siècles, qui a ravagé l'Europe, c'était dû au fait que les êtres humains se sont sédentarisés, qu'ils ont créé des fermes, qu'ils ont capturé des animaux, qu'ils ont assimilé les animaux, et puis les écosystèmes des animaux se sont mélangés avec eux, et c'est comme ça que la peste s'est, par exemple, développée pour le...
La peste, ça vient des rats, c'est bien ça?
Pardon?
La peste, ça vient des rats.
Oui, ça vient des rats parce qu'ils contiennent des microbes qui sont des microbes qui provoquent la maladie. C'est pas les rats qui provoquent la maladie.
D'accord.
Évidemment.
J'ai toujours cru ça.
Et de ce fait-là, on comprend qu'à un certain moment, d'avoir bétonné notre planète comme on l'a bétonné, avoir fait de l'agriculture intense, avoir fait des routes, avoir fait des plans, à un certain moment, la quantité de rupture des écosystèmes est devenue telle que les risques sont devenus élevés. Et c'est comme ça qu'on explique que beaucoup de pandémies de ces derniers temps. Par exemple, j'ai vécu un certain temps au Vietnam. Je dormais sur des nattes au premier étage d'une ferme parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Et sous moi, il y avait une basse-cour. Il y avait des milliers de poulets qui étaient sous moi.
Tu n'as pas attrapé la fièvre aviaire?
Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que le contact humain avec ces milliers de poulets, c'est comme ça que la transmission de la grippe porcine et avec des porcs, et puis que certaines autres formes de grippe s'est transmise à l'homme, et depuis là, à l'homme, et a créé des grandes épidémies.
On va écouter un peu de musique, si tu veux bien.
Bien oui.
On va nous consoler de toutes ces pandémies.
Voilà.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
About all the things that you said was yours and mine. Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Children dead from war. Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec le grand professeur Francis Walvogel, qui a écrit un dernier livre absolument passionnant, « Nature, tu peux encore nous sauver », aux éditions Odile Jacob. Alors, mon cher Francis, j'ai découvert plein de choses. On a parlé tout à l'heure de la ligne droite et de ses méfaits, mais j'ai découvert aussi que nos sous-sols et fonds de mer était un immense parc, je te cite, microzoologique, bruissant d'activités en tout genre. Alors, ce n'est pas seulement les poissons, ce n'est pas seulement les algues. Qu'est-ce que c'est ?
Pour bien comprendre ce monde, il faut avoir le courage de prendre un microscope. Le microscope a l'énorme avantage qui permet de voir la vie à un niveau où l'œil humain ne peut pas le voir. Quand vous utilisez un microscope ou un microscope électronique qui est encore plus puissant, vous voyez que le monde sous vos pieds, autour de vous, bruisse d'activité microbienne. On a calculé que le nombre de microbes qu'il y avait à peu près sur notre planète était suffisamment élevé pour peupler toutes les étoiles de tout l'univers, chacune de 100 millions de virus ou de bactéries. Mais rendez-vous compte ce que ça veut dire.
Oui.
C'est incroyable. Parce que il y a 35 milliards de galaxies. Chaque galaxie contient peu 35 milliards de soleils. Et beaucoup, beaucoup de planètes en plus. Et chacun de ces astres, on peut le peupler de 100 millions de bactéries et de virus.
C'est un rêve ou un cauchemar, Francis?
Non, pour moi, c'est un rêve. Parce que il y a une fausse idée, on a l'impression que les microbes sont dangereux et sont causent des maladies.
Ce qui nous passe la grippe, par exemple.
C'est une toute petite proportion de tout ce monde-là qui cause des maladies. Mais je prends l'exemple dans le livre, je prends l'exemple d'un iceberg. Je prends tout seul le monde microbien comme un iceberg. Mais la partie qui nous affecte, c'est vraiment une tête d'épingle au sommet de l'iceberg. Et tout le reste, c'est un monde microbien qui nous aide à vivre et qui nous aide à survivre. Et
comment nous aide-t-il à vivre?
Par exemple, il y a dans le sol, il y a tout un réseau de champignons, de champignons et de microbes. Qui capte l'azote, qui est un composé de l'air, à l'intérieur de leurs cellules, et qui utilise cet azote pour nous aider à créer toutes les protéines, c'est-à-dire les éléments de notre corps. Donc, il nous prépare en quelque sorte c'est un petit peu comme si l'être humain était un Lego. Et puis, il prépare les différentes pièces de Lego pour fabriquer le corps humain. Dans ce monde microbien, il y en a d'autres qui ont contaminé toutes les feuilles que vous voyez pour créer la couleur verte des fleurs, des feuilles, et grâce à ça, capter l'énergie du soleil, créer de l'énergie et produire de l'oxygène. Sans tout ce monde microbien, des forêts et puis des algues dans les mers, il n'y aurait pas d'oxygène sur notre planète et puis on n'existerait pas. Donc ça veut dire qu'il faut être plein de reconnaissance de ce monde qui date il y a 2 milliards d'années et qui est depuis là s'est développé petit à petit d'une cellule individuelle en plusieurs cellules individuelles et puis finalement de grands paquets de cellules et puis ensuite dans des vers de terre et puis par la suite dans des papillons puis ensuite dans des mammifères puis ensuite en nous. Mais à l'origine de cette chaîne, il y a tout cet immense monde microbiologique de cet immense iceberg dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Alors nous, on descend de ces bactéries, on descend de ces...
Pas directement, évidemment, ça serait trop simple de voir, mais...
C'est joli, note de penser qu'on descend des algues bleues. Tu en parles dans ton livre.
D'une certaine façon, les algues bleues ont été très, très importantes, comme j'ai dit, indirectement pour l'être humain, parce que c'est elles qui ont produit de l'oxygène. Sans elles, il n'y aurait pas eu d'oxygène. Mais je dirais que la grande théorie de l'évolution correspond à ce que tu dis, c'est qu'on a commencé par des êtres unicellulaires qui étaient individuels, qui étaient dans les mers. Ensuite, ces êtres individuels se sont mis en paquet, en groupe. Ensuite, ils ont su se différencier, c'est-à-dire qu'ils ont créé certaines fonctions chez l'un et puis certaines fonctions chez l'autre. Ça donnait des êtres qui avaient différentes fonctions, comme par exemple les octopus, bien les poissons. Puis ensuite, on est sorti de l'eau des océans et on a créé les premiers animaux de la Terre. Et puis ensuite, après 2 milliards d'années, il y a l'être humain qui est apparu. Mais donc, on peut dire que ce sont nos ancêtres, mais ce sont des ancêtres bien, 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 bien lointains dont on a un petit peu perdu un tout petit peu
la mémoire.
Mais il y a des gènes qu'on retrouve qui montrent que toute cette évolution vue par Darwin était juste.
On va écouter à nouveau un peu de musique.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt,
la bouteille à moitié pleine.
They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Please don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot. They paved paradise, put up a parking lot.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec le grand professeur de médecine Francis Walvogel, qui nous a écrit un livre passionnant, passionnant, passionnant. Vraiment, j'engage tous nos auditeurs à courir l'acheter, parce qu'on y découvre tellement de choses qu'on croit savoir et qu'on découvre tout à fait autre. Mon cher Francis, tu as donc écrit « Nature, tu peux encore nous sauver ». Je voudrais que maintenant tu me parles de ce monde microbien dont tu dis que, loin de s'en méfier, c'est un immense vivier d'outils et de procédés potentiellement utiles à notre vie et survie. Comment peux-tu nous expliquer ça en détail à nous qui ne sommes pas des scientifiques comme toi ?
La façon peut-être la plus simple de le faire, c'est avec trois exemples. Un premier exemple, le monde microbien que on a dans la Terre, partout autour de nous, c'est transformer toutes les matières qu'il rencontre en matières élémentaires. En chimie, on appelle ça des molécules élémentaires pour recréer quelque sorte de nouveaux produits. Et fait ceci sans déchets, sans ordures, parce qu'il le fait de façon cyclique. Par exemple,
Veux dire qu'il n'y a pas de résidus.
Il n'y a aucun résidu.
Il n'y a pas besoin de recycler quoi que ce soit.
Non, il recycle tout ça lui-même. C'est absolument extraordinaire. Par exemple, beaucoup de stations d'épuration maintenant utilisent des tapis microbiens pour dégrader des produits organiques qu'il faut détruire. Un autre exemple, c'est qu'on a découvert ces dernières années. On n'arrive pas encore à le faire de façon industrielle, mais on a découvert des microbes qui sont capables de dégrader le pétrole. Alors, les grandes nappes de pétrole sur les plages, quand on arrivera à utiliser ceci de façon plus industrielle, risquent de pouvoir être nettoyées de façon élémentaire, parce que les microbes, quand ils dégradent, ils ne font pas de résidus, ils le réincorporent immédiatement.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ces microbes qui ont incorporé le pétrole ?
Ben, ils survivent normalement, et c'est leur travail de faire ceci, génération après génération, ils se multiplient, et puis
ils sont toujours pas visibles, ils sont toujours invisibles.
Non, ils restent invisibles. Un autre exemple de absolument extraordinaire, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent cette histoire, elle date déjà une vingtaine d'années. Toutes les personnes qui se piquent avec de l'insuline, qui doivent se traiter avec de l'insuline pour leur diabète. Autrefois, cette insuline, il fallait l'extraire de pancréas d'animal. Ça coûtait extrêmement cher, c'était compliqué. Maintenant, on obtient cette insuline, ce qu'on appelle ça par génie génétique, c'est-à-dire qu'on a incorporé le gène de l'insuline dans une bactérie, c'est pas une bactérie, mais peu importe, un micro-organisme, et ce micro-organisme se multipliant pour son propre plaisir, produit des paquets d'insuline qu'on arrive à extraire, et puis qui est totalement pur, et c'est comme ça qu'on peut traiter les gens. Et c'est vrai avec d'innombrables produits à l'heure actuelle. Donc, en ce monde microbien, on est au début de connaître véritablement toute son activité, ses potentiels. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y en a tellement de ces microbes, il y a tellement d'écosystèmes, il y a tellement de dégradations, de synthèses de dégradation dans la nature, il y a tellement de cycles dans la nature que petit à petit, on trouvera des réponses pour beaucoup de problèmes de pollution qu'on a à l'heure actuelle.
Donc c'est effectivement le titre de son livre, Nature, tu peux nous sauver.
Alors, Nature, tu peux nous sauver. J'aurais dû ajouter, mais je l'ajoute aujourd'hui avec vous, trois petits points. À condition de l'utiliser en partenariat.
Voilà. Et c'est ça que peut-être on n'a pas encore fait, ou pas assez fait.
Non, on essaie de la dominer. On a bien vu tout à l'heure avec l'exemple de ce chemin de fer qui traverse le Laos, etc. On essaie de la dominer. Et maintenant, ce paradigme est terminé. Il faut être partenaire avec elle. Par exemple, j'ai donné deux exemples pour la pollution d'une part, pour la synthèse de médicaments, etc.
Alors, tu as également, tu nous parles de ces fameuses conséquences, ces mouvements que nous ne contrôlons pas, qui provoquent des séries d'inconvénients, de malheurs, pour parler un langage très très simple. Comment dans tout ce magma informe qui bouge dans tous les sens, qu'est-ce qu'on peut faire?
Mettre un petit peu d'ordre dans ce magma qui va. Il est beaucoup plus ordonné que ce qu'on croit, parce que la nature est ordonnée. Ce qui frappe quand on a travaillé toute sa vie avec la nature, comme je l'ai fait, j'ai la chance de le faire. Ce qui frappe, c'est elle est très ordonnée, avec des principes de base relativement simples, mais une diversité de variations absolument énorme. C'est ce qui fait sa richesse.
C'est nous qui sommes désordonnés, alors.
Nous, on est chaotiques. mettons de l'ordre. J'ai exprimé ceci dans le livre de la façon suivante, avec une phrase un peu lapidaire. Tout tourne au-dessus de nous, tout tourne autour de nous et tout tourne en nous. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui est tout est animé de grands, grands cycles. Les galaxies tournent. Les systèmes solaires tournent autour dans les galaxies. Dans les systèmes solaires, les planètes tournent. Les planètes tournent autour d'elles-mêmes. Nous, pendant que vous êtes là, en face de moi, tu es en face de moi, Viviane, tu tournes à 100 000 kilomètres.
Quand tu m'as dit ça, je me suis accroché à la table et à mon siège.
Et tu as pas de ceinture de sécurité, mais tu tournes à une allure incroyable. Et par sur le marché, tu tournes autour de toi-même sans t'en rendre compte, parce que on a deux types de rotation. On a la rotation de la Terre autour du Soleil, puis on a la rotation de la Terre autour d'elle-même. Donc, comme on n'a pas de tachymètre
incorporé dans notre corps.
Non, on n'a pas le tachymètre pour voir la vitesse que tu as, tu t'en rends pas compte. Du reste, c'est intéressant, ça, c'est pas le cas. Donc, mais ces rotations, elles ont produit les aires géologiques, elles ont produit le climat, les variations de climat, ça détermine les saisons, ça détermine la variation diurne-nocturne. Et ça a une profonde influence sur notre planète à nous, surtout en forçant toute une série de cycles, en quelque sorte planétaires, à l'intérieur de notre planète à nous, en ce qui concerne la nature. Il y a un cycle de l'eau, il y a un cycle du carbone, il y a un cycle de l'azote, il y a un cycle du phosphate. C'est tous ces cycles qui ont été induits en quelque sorte par la rotation du soleil, la rotation autour du soleil et surtout le soleil.
Mon cher Francis, je vais m'accrocher à la table pour écouter un peu de musique avec toi.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Mercy, mercy, me. Our things ain't what they used to be. Lost mother. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are lies. Mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand?
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Vous savez que je reçois le grand professeur Francis Valvegel pour un livre qui m'a enthousiasmé et que je vous engage à lire, Nature, tu peux encore nous sauver. Tu m'as dit tout à l'heure, Francis, tu peux encore nous sauver, à condition que nous ne continuions pas à l'exploiter de façon inconsidérée. Et parmi ces exploitations inconsidérées, il y a le plastique, pandémie d'un nouveau genre. Tu nous fais tout un article là-dessus et je crois que c'est important d'en parler et de partager ça aujourd'hui avec nos auditeurs.
Je vais le faire de façon relativement simple. Qu'est-ce que c'est que le plastique ? Le plastique, c'est un produit qu'on prend au niveau du pétrole. Le pétrole, on peut se représenter ça comme des petites boules séparées les unes des autres. C'est des molécules qui sont séparées les unes des autres. Et le plastique consiste à en faire des longues chaînes. Pas des longues chaînes de 20 ou de 30 ou de 40 boules, mais de 1000, 2000, 3000 boules. Et ce plastique, à ce moment-là, a différentes caractéristiques. Ça date des années 50, les premiers plastiques. Et ça a bouleversé le monde parce qu'on a dit « Ah, la nature ne sait pas faire ça, mais nous, on sait faire ça. » Et c'est tellement utile parce que c'est utile pour faire des bouteilles, c'est utile pour faire des bouchons, c'est utile pour faire des emballages.
Des contenants.
Des brosses à dents. Le plastique a envahi la planète chaque année un tout petit peu plus. Alors maintenant, c'est exactement l'exemple typique d'une invention linéaire pratique, utile, mais dont on n'a pas su faire la cyclicité. Parce que la nature, justement, si elle avait inventé, on appelle ça des polymères, une structure très 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 longue, elle aurait inventé un truc pour les dégrader. Je prends l'exemple, les dames connaissent bien cette chose-là, mais aussi les hommes, on a du collagène dans la peau. Le collagène, c'est important, c'est ce qui tient la peau, ce qui évite les rides. La nature a inventé ce collagène, c'est une sorte d'art de plastique naturel, si vous... mais la nature a inventé en tout cas une vingtaine d'enzymes, c'est-à-dire des ciseaux, pour pouvoir couper ce collagène quand on n'en a plus besoin. Ça s'appelle ça des collagénases. L'exemple le plus classique, c'est le têtard, lorsqu'il se transforme en grenouille, il perd sa queue. Et là, c'est un enzyme qu'on appelle collagénase qui coupe finalement la queue et puis dégrade la queue et puis il ne reste plus rien. L'être humain, il n'a pas été capable de faire ça. Il a produit dans son propre collagène, qui sont les plastiques, il les a utilisés partout, et il ne sait pas les dégrader. Et on est arrivé au moment, maintenant, c'est pourquoi je me suis beaucoup intéressé au plastique, que tous les ans, 20 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Où ils sont dégradés, ils entrent dans ce qu'on appelle le grand gyre océanique. On a parlé tout à l'heure des grands cycles de la nature. Il y a des grands cycles des gyres des océans. Le plastique finit là-bas dedans et les 5 grands gyres planétaires dans les océans sont totalement pollués par du plastique à l'heure actuelle. Et ce plastique, on ne peut plus aller le chercher. Vous avez probablement entendu, il y a des bateaux maintenant qui essayent de ramasser ce plastique. Mais je peux te dire que moi, j'ai analysé tout ceci. C'est aller chercher des épingles dans une botte de foin. Ce qu'il faut faire, c'est faut arrêter de produire le plastique et puis avoir un système, avant qu'on le mette dans les océans, de savoir le dégrader. Alors, ce que nous avons essayé de faire, mais c'est un cycle qui commence à être admis par d'autres, on a travaillé avec une firme qui prenait les plastiques, les longues boules, les unes après les autres, et essayait de les couper en petits morceaux. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle coupe en petits morceaux? On le transforme en pétrole. Et on
donc
a rempli le cycle.
Recycler,
et
alors.
On est rentré dans le cycle. Alors voilà l'idée qu'on a développée. Il y a plusieurs firmes qui essayent de le faire maintenant. Et je pense que c'est probablement une façon d'avoir supprimé la ligne droite et d'avoir transformé la ligne droite en la courbant des deux côtés en cycle.
Alors, il paraît que la baie de Dakar est entièrement couverte de plastique. On ne peut plus y naviguer. Il n'y a plus de poissons dessous puisque ces poissons sont étouffés par le plastique. Enfin, c'est effrayant.
Alors, moi, j'ai vécu ça au Cambodge. Il y a des dauphins d'eau douce sont en disparition. Pourquoi? Parce qu'ils se font prendre dans les filets et dans des sacs en plastique du Mekong. Et oui, là, on est en train de détruire de la nature. Mais c'est intéressant que, comme je disais tout à l'heure, elle peut nous aider en partenariat parce qu'elle a trouvé la réponse. Puisqu'elle est capable de dégrader, vous avez pas la baie de Dakar n'est pas envahie de collagène. Tout ce collagène, il est dégradé. Mais la baie de Dakar est envahie de plastique parce qu'on a cru être plus fort que la nature. Puis on n'a pas, mais ça, j'ai rien contre ça. Mais quand on veut être plus fort que quelqu'un, il faut aussi être sûr qu'on est capable de boucler la boucle.
On va écouter de la musique maintenant, si tu veux bien.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say fair's fair. To pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact. It belongs to them. Let's give it back.
that lives and breathes in 45 degrees.
The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share.
Give it back.
How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How can we dance when our earth is turning?
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec le grand professeur de médecine Francis Waldvogel, qui a écrit un livre « Nature, tu peux encore nous sauver » aux éditions Odile Jacob. Et ce livre est préfacé par le professeur Patrick Ebischer, qui a dirigé l'École polytechnique de Lausanne, qui est chercheur, professeur de neurosciences, et qui fait une préface très intéressante elle aussi. Mon cher Francis, qu'est-ce qui t'a décidé à écrire un nouveau livre? Tu en avais publié un très récemment qui s'appelait « Tableau de la vie ». Pourquoi ce nouveau livre?
C'est une question délicate. Je suis un grand privilégié. De naissance, j'ai la chance d'être dans une famille agréable, travailleuse, respectueuse. J'ai pu faire des études, je vis dans un pays magnifique.
La Suisse.
Je vis dans un continent qui m'intéresse beaucoup. Je vis sur une planète que j'ai pu visiter dans tous les sens, que j'ai adoré. Et de ce fait-là, j'essaie d'avoir, au crépuscule de ma vie, j'essaie d'avoir une vision un tout petit peu globale sur ce qu'on laisse derrière et ce que les générations futures pourraient avoir. Et je suis très inquiet. Je ne suis pas inquiet de façon passive et de façon pessimiste, je suis inquiet de façon optimiste. Quand on lit l'histoire, on se rend compte qu'on a passé par des ères différentes et puis des changements d'opinion. L'exemple le plus magnifique peut-être de changement total de civilisation, de culture, c'était la Renaissance. La période de la Renaissance avait tout ce renouveau absolument extraordinaire qui était artistique, qui était philosophique, qui était social, qui était aussi politique. Ceci me fait dire que je pense qu'on arrive à l'heure actuelle, à une fin d'une période, comme juste avant le début de la Renaissance. Et que de ce fait-là, il s'agit de lutter avec les âmes qu'on a pour créer cette nouvelle renaissance et cette nouvelle civilisation. L'arme principale que j'ai dans mes mains, c'est ma tête et mes doigts, c'est-à-dire avoir des idées et puis essayer de les mettre sur papier et surtout de les mettre sur papier de telle façon que les gens les comprennent. J'ai 40 ans professorat derrière moi. Les étudiants m'aimaient beaucoup au point de vue enseignant parce que j'arrivais à dire les choses simplement. Là, c'est la même chose. J'essaie de dire les choses le plus simplement en disant « Allô, attention maintenant. Maintenant, il faut tous qu'on se mette au travail. » Et donc, c'est un appel optimiste à la collaboration générale.
Tu considères justement que nous sommes dans une période où maintenant, pour que tout cela fonctionne, c'est-à-dire qu'on arrive à respecter à nouveau la nature, on arrive à la laisser se reconstituer, puisqu'on l'a beaucoup saccagée, tu dis « il va falloir s'entendre, il va falloir s'écouter ». Tu peux nous expliquer ça ?
Ça fait appel à un autre chapitre du livre qu'on n'aura pas le temps de discuter, mais que j'ai résumé en deux mots. Les neurosciences nous apprennent qu'on pense que chacun entre nous sent différemment. Dans le sens...
Tu veux dire que chaque homme perçoit les choses différemment.
Chaque personne, le cerveau de chaque personne étant totalement individuel, les signaux extérieurs qui sont des signaux électriques sont transformés en pensée ou en sentiment. Et chaque pensée, chaque sentiment, à cause du fait qu'on a un passé différent, un génome différent, une histoire différente, une éducation différente, chaque cerveau exprime ceci à sa façon. C'est uniquement grâce au langage qu'on arrive à communiquer, qu'on arrive à se mettre d'accord. Et si quand on dit ça...
Tu ne penses pas qu'il y a des grandes familles de pensées ?
Si, à mon avis, si on n'avait pas la parole, à mon avis, ça n'existerait pas. D'accord. C'est le langage. Peut-être, disons pas la parole, disons plutôt le langage, parce que le langage écrit des... Je pense que le...
Autrement dit, la fonction, les fonctions semblables ne font pas l'homme.
Non, il ne faut pas du tout. Et surtout, pour se mettre d'accord avec le bleu pervenche que tu vois toi, et puis le bleu azur que moi je vois moi, si on n'avait pas la parole, on ne le voit pas de la même façon, parce que nos cerveaux ne le voient pas de la même façon. Et ceci est vrai pour tout. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit à la fin, c'est pour s'entendre, il faut s'écouter. Et pour le dialogue et les échanges, c'est beaucoup plus important que l'opinion péremptoire.
Donc, maintenant, si on veut que la nature puisse nous sauver, il faut l'aider, mais pour l'aider, nous avons besoin, nous, de nous écouter. C'est bien ça. De
exactement.
Nous écouter,
ouais.
Pas de nous écouter nous personnellement,
oui,
mais
écouter l'autre. Écouter l'autre et puis créer cette intelligence collective qui est superbe, qu'on a pu mettre en route plusieurs fois et qui montre que le succès est là. Trois exemples rapides. La couche d'ozone, qui était en train de disparaître, a été guérie grâce au protocole de Montréal il y a une vingtaine d'années. Ça, c'est une offre collective énorme. Deuxièmement, le sida a été mis sous contrôle grâce à une offre collective absolument énorme. Et puis, troisièmement, le Covid est finalement grâce à une offre collective énorme et a été mis sous contrôle avec l'avantage que les photographies qu'on a prises de la planète à ce moment-là ont montré que le climat est amélioré.
Alors au fond, à la veille d'une nouvelle renaissance, on va se quitter là-dessus, mon cher Francis, tu nous laisses espérer de beaux jours, des jours meilleurs.
Je suis sûr qu'on arrivera à se tirer d'affaire, mais il y a un énorme travail à faire. Le terme anglais, c'est « mindset », la meilleure traduction, c'est « on a changé de mentalité ». Et chacun doit changer de mentalité depuis la teinturerie à la coin de la rue de chez moi jusqu'au professeur universitaire, en passant par les ouvriers dans les champs. Tous doivent se mettre en route maintenant pour tâcher de corriger le système.
Alors, mon cher Francis, merci. Et je répète à nos auditeurs qu'il faut courir acheter ce livre du professeur Francis Walvogel, « Nature, tu peux encore nous sauver », préfacé par le professeur Patrick Ebischer aux éditions Odile Jacob. Et à bientôt, mon cher Francis, pour de nouveaux livres et de nouvelles aventures, si j'ai bien compris.
Merci mille fois, et puis des aventures cycliques.
Des aventures cycliques, et on remercie aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistré ce matin.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.